Donc ce soir, ce sera les récits de la résurrection par lesquels nous terminerons notre année johannique. Voilà, une introduction brève. Jésus ne se manifeste pas au monde, mais à ceux qui l'ont aimé. Hein, c'est une question qui a été posée par les disciples au moment de la scène. Pourquoi faut-il que tu te manifestes à nous et non pas au monde? Chez saint Jean, il y a une grande insistance sur la communauté qui est le lieu, j'allais dire, naturel ou surnaturel, mais les deux sont équivalents, capable de comprendre ou d'accueillir le mystère du Verbe incarné. Pas forcément de le comprendre, mais au moins de l'accueillir. On fait trop facilement, trop rapidement de l'évangile une sorte de message, vous savez, une espèce de message qui serait un peu livré à tout le monde et qui serait accessible. Hein, c'est le fameux débat entre les catholiques et les protestants, je fais quelquefois référence, hein, mais c'est vrai que quand on insiste beaucoup du point de vue catholique sur le lien entre l'écrit et la communauté, hein, c'est qu'on voit bien que Jésus confie à une communauté un texte qui ensuite est mis par écrit. Alors ce serait loyal de permettre à des amis luthériens, calvinistes, etc., d'insister sur un autre aspect qui pour nous est important aussi, que souligne saint Paul, qui est que la parole en elle-même a son efficacité, elle a sa force. Elle est tranchante comme un glaive, ça c'est assez paulinien. Mais saint Jean va nous rappeler quand même que la parole est nécessairement reçue par une communauté à qui elle est confiée, et le lien entre le livre et la communauté est tout à fait profond et indissociable. Et c'est quand même très caractéristique que Jésus n'a rien écrit après la résurrection. Il n'a même pas été reconnu par des gens qui ne croyaient pas en lui, et ça on le voit aussi dans les synoptiques. Hein, c'est un peu curieux, où il y a plein de personnes, brusquement, on dit « tiens, ils ont disparu ». Ben oui, parce que le mystère du Christ ressuscité ne peut être reconnu que dans la foi. Et donc c'est cette communauté de témoins qui va ensuite mettre par écrit et transmettre comme un témoignage. J'y reviendrai à la fin dessus. Petite question, mais il faut qu'on avance. Hein.
Jésus n'a rien écrit avant.
De toute façon, il n'a rien écrit avant. Il n'a rien écrit avant, mais on aurait pu imaginer qu'au moment de son départ, il donne un témoignage. Vous avez raison, l'expression juste, il n'a pas davantage écrit après la résurrection, alors qu'on aurait pu s'attendre, on aurait pu dire, ben, il va peut-être au moins laisser quelques indications, pas du tout. Hein. Ce qu'il confie, c'est l'expérience de sa résurrection à une communauté. Hein, voilà, c'est la question de la foi qui est posée. Mais ça, je vais revenir dessus abondamment pendant cette séance, comme à peu près à chaque séance. Si vous l'avez compris, je pense que vous l'avez compris au terme de toutes ces 8 séances sur saint Jean, c'est que c'est le chemin qui permet d'accéder à la vérité de l'Évangile, c'est la foi. Alors on a tout compris. Alors trois parties. Tout d'abord le tombeau vide, et je dis bien le tombeau vide parce que il n'y a qu'un tombeau. Ensuite les apparitions, parce que là il y a quelqu'un qui apparaît. Et troisième partie qui sera la plus longue, ce qui se passe au bord du lac. Tout d'abord le tombeau vide. Premier point, Jésus rapporte la visite de Marie-Madeleine au tombeau. Selon les autres évangiles, il y avait d'autres femmes. Hein. Jean connaît bien son style, il est souvent moins descriptif que les synoptiques, hein, notamment Saint-Marc qui va donner toutes sortes de détails, mais Saint-Jean rapporte ce qui est utile au but qu'il poursuit. Non pas qu'il soit dans un discours purement abstrait, hein, comme on le pense trop souvent, il est capable d'être extrêmement concret, hein, mais à la différence de Saint-Marc, on voit que les choses sont beaucoup plus ramassées en vue du but qu'il poursuit, qu'il exprime dans la finale, hein, qui est que, en entendant le témoignage et en y croyant, nous ayons la vie éternelle. Voilà, Marie-Madeleine joue un rôle de premier plan, puisque c'est à partir d'elle que tout va se déclencher. Hein, c'est elle qui rapporte à Pierre et Jean ce qu'elle a vu, et qui va les conduire à se rendre au tombeau. Ah, vous voyez comment les choses chez saint Jean s'imbriquent les unes par rapport aux autres. Précisément, Pierre et Jean, deux disciples, hein, parce que, très probablement, bien qu'il n'y ait rien de dit dans ce sens de façon explicite dans l'Ancien Testament, on ne pouvait recevoir comme valable qu'un double témoignage. Ce qui est dit dans l'Ancien Testament, il y a bien l'idée du double témoignage, mais c'est plutôt à propos d'un meurtre ou d'un délit ou d'un crime. Voilà. Alors là, il y a besoin d'un double témoignage. Mais la résurrection, ce n'est pas écrit dans l'Ancien Testament. Si tu es témoin d'une résurrection, il faut un double témoignage. Donc, c'est tellement inédit, mais on est quand même dans un domaine, j'allais dire, qui touche la question de la vie et de la mort. Donc, c'est quand même, d'un point de vue symbolique, cette loi du Deutéronome qu'on trouve en deux endroits du Deutéronome, et je crois également dans le livre des Nombres de l'Exode, l'exprimer à trois endroits. On ne comprendra un témoignage que s'il y a deux témoins. Voilà. Une indication de caractère juridique, on avait déjà vu ça, alors je n'ai relevé qu'une occurrence, sur le fait que les Juifs n'ont pas le droit de mettre à mort, donc ils font appel aux Romains, etc. Il y a pas mal d'indications de type juridique, parce que Saint Jean, comme les autres évangélistes, veut montrer le caractère extrêmement fiable de ces informations. On n'est pas dans une construction, mais une construction théologique qui ne partirait d'aucun événement. On part d'événements qui sont tout à fait cadrés, qui correspondent à une histoire. La fiabilité du témoignage de Jean. Voilà. Alors, il s'agit d'un témoignage. Donc, Pierre entre. Alors vous connaissez la scène, je ne la reprends pas là. Jean arrive, il arrive le premier. On peut deviner que c'est un jeune qui a 18 ans, quelque chose comme ça. On court plus vite quand on a 18 ans que quand on a 40. Croyez-en ma vieille expérience d'aumônier de collège-lycée. Ceux qui ont 18 ans aiment bien nous rappeler qu'on est moins rapide qu'eux, d'accord, il ne faut pas insister. Donc Jean délicatement ne dit rien de plus, il attend juste que Pierre, un peu essoufflé, arrive. Il passe par la petite porte, il entre. Ceux qui sont là en Terre Sainte se souviennent des tombes, on voit bien, au Saint-Sépulcre. Vous voyez la tombe à l'arrière chez les Syriaques. C'est un endroit extraordinaire. On voit ça aussi à Enachofet, sur le mont Carmel, au bord de la route. Une petite porte, on entre, vous avez une pièce, et avec plusieurs tombes. Voilà, pardon ? Ben voilà, on est plusieurs à être allés en Terre Sainte et on se souvient. Voilà, donc on voit bien la scène, Pierre entre dans la tombe, pendant que Jean reste à l'extérieur, et il voit les bandelettes demeurer comme elles étaient, sans le corps, donc juste posées comme ça, et non pas enroulées, et le suaire, c'est-à-dire le linge qui tenait la tête. Probablement aussi, on mettait un linge pour tenir la mâchoire. Voilà. En tout cas, plié séparément. La distinction entre les bandelettes et le suaire prouve avec quel soin Pierre a examiné les choses. Et donc la précision du témoignage de Jean. C'est partie, comme je viens de vous le dire, de ce témoignage pour Jean s'appuie sur des faits qui ont été constatés par les témoins. Et à travers cela, il y a donc, pas simplement l'insistance sur la précision du témoignage, mais il y a un élément, j'allais dire, d'ordre théologique, de grande importance, c'est que le corps de Jésus n'a pas été emporté. Si ça avait été le cas, évidemment, on l'aurait emporté avec les linges. On n'aurait pas pris un corps sans rien. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une attestation à travers cette notation qui est de très grande importance. Il a de lui-même disparu. Il n'y a eu aucun témoin de cet événement-là, mais en tout cas, il y a un témoignage du fait que les linges sont là, posés, bien séparés, et que le corps n'est plus là. Donc le corps de Jésus n'a pas été emporté. Il n'est plus là, c'est la seule chose qu'on peut dire. Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle a vu ? Que la pierre était roulée. Elle est repartie aussitôt, parce qu'on peut imaginer une espèce de frayeur. Pierre et Jean ont vu les linges posés sans le corps. Ce sont des signes. Mais il faut être très prudent dans notre manière de lire les évangiles et suivre la progression du récit. Ne pas aller trop vite. Ce ne sont pas des preuves. Alors, je ne suis pas scientifique. Parmi nous, il y a des scientifiques. Je sais qu'en science, pour parler de preuves, il faut un certain nombre de conditions. Donc l'absence d'un objet ne prouve rien. Il peut s'être passé beaucoup de choses avec cet objet. Enfin, je dis objet pour le corps de Jésus, mais c'est aussi le mystère de l'incarnation. C'est qu'il a accepté d'être cadavre. Donc l'absence d'un cadavre ne veut rien dire, pour l'instant. C'est un signe. Vous voyez, la force du signe, le terme n'est pas employé chez Saint Jean, mais on a été habitué avec Saint Jean à voir à travers les événements des signes, c'est-à-dire des réalités qui appellent un questionnement, s'il le faut, un acte de foi. Voilà. Marie-Madeleine, d'ailleurs, spontanément, elle pense qu'on a enlevé le corps de Jésus. Vous voyez qu'un tombeau vide et des linges ne prouvent rien. Voilà. C'est par la foi, c'est très important, c'est par la foi que Jean va connaître que Jésus est ressuscité. Alors, puisque nous avons évacué déjà l'idée de la preuve, on va dire, ben, c'est la foi, ça veut dire, en fait, c'est de l'invention. Ça veut dire, on va se créer quelque chose. La foi, il suffit, c'est la force de la conviction. Alors, en réalité, Jean ne va pas se créer quelque chose qui n'existait pas. Hein. Il a plutôt perçu la cohérence des événements. Hein. C'est là qu'il va faire appel aux Écritures. Hein, il connaissait les Écritures qui annonçaient que le Messie devait ressusciter. Hein, il se souvint de l'Écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Il a entendu le témoignage de Marie-Madeleine. Hein, mais encore une fois, l'absence du corps n'est pas suffisante. L'Écriture elle-même n'est pas suffisante parce que l'Écriture, il l'avait déjà. Donc, vous voyez qu'on va avoir plutôt une convergence d'éléments. Dont c'est la cohérence, c'est l'unité hein, qui va conduire Jean à dire « Oui, il y a vraiment quelque chose. » Ce ne sont pas les textes de l'Ancien Testament qui ont fait naître chez les disciples la foi en la résurrection de Jésus. Hein, ce sont les faits. Hein, et cette progression du récit jusqu'à la rencontre avec Jésus montre qu'il y a véritablement une cohérence, un peu comme un pulse qui est en train de se mettre en place. Et il y a une espèce de force des faits qui va entraîner ensuite l'acte de foi. Hein, ça, c'est très important. La foi, ce n'est pas, on ne va pas créer un événement, c'est l'événement qui va susciter la foi. Hein. Pour Jean, il a fallu la constatation. Jean est allé plus vite que Pierre, non pas simplement à la course, mais aussi parce que je pense que son cœur s'est préparé. C'est celui qui a penché la tête sur la poitrine de Jésus, c'est celui qui, au pied de la croix, a vu et a rendu témoignage. Voilà, pour les autres apôtres, il faudra un petit peu plus de temps, il faudra la rencontre avec Jésus. Mais voyez, ce n'est pas, par exemple, parce qu'ils se disent, l'Ancien Testament les prévoyait, maintenant il suffit de dire que ça existe, parce que ça peut ne pas exister. Il y a plein de textes de l'Ancien Testament qui annoncent des choses qui ne se sont pas réalisées. Donc, il faut quand même s'en rendre compte. Je dis ça, je me rends compte, quand je suis en Terre Sainte, j'aime bien citer les passages de l'Ancien Testament en montrant comment, déjà dans l'Ancien Testament, il y a toutes sortes de choses qui étaient annoncées et que ça se réalise en Jésus. Et certains réagissent en disant, mais dans ce cas-là, tout était prévu et ce n'est qu'une application. Vous voyez le problème que ça pose. Un peu comme si tout était prédéterminé. Voilà. Mais, encore une fois, il y a plein de choses de l'Ancien Testament qui ne sont pas réalisées. Donc, c'est pas parce que c'est marqué que ça doit se réaliser. Mais c'est plutôt parce que, dans le Nouveau Testament, les apôtres ont fait une expérience du Christ, qu'ils ont été amenés à relire l'Ancien Testament en disant « Ah mais oui, on n'avait pas compris jusqu'à présent, mais maintenant nous comprenons l'Ancien Testament, ce qu'il voulait vraiment dire. » L'Ancien Testament va éclairer, va permettre de mieux comprendre, mais c'est d'abord la réalité des faits. Hein, c'est très important. Donc là, Jean voit qu'on est devant un fait, un événement, espèce de surgissement d'un événement tout à fait inouï, mais qui est cohérent, ou plutôt qui donne sa cohérence aux Écritures. On pourra revenir dessus à la fin, parce que c'est une question tout à fait centrale. Hein, le christianisme, la foi dans le christianisme, part d'une histoire, hein, dans laquelle Dieu survient, surgit, fait irruption. Il y a cette irruption de Dieu à travers des événements, à travers la résurrection du Christ, et l'Ancien Testament, l'Écriture, va permettre d'avoir une intelligence des choses, va permettre de saisir le sens profond. Mais c'est d'abord une rencontre. Ça, c'est vraiment très important. Alors, nous sommes, j'allais dire, comme à un seuil. Et on peut dire que Jean précède Pierre et les autres dans la foi. Mais c'est bien la foi qui va lui donner accès à la vérité des choses. Alors, deuxième temps, les apparitions. Jusqu'à présent, ce que nous venons de voir, c'est un lieu, des objets, un tombeau vide, une absence, l'absence de Jésus, qui déjà signifie quelque chose. La vision de Pierre et Jean a préparé les disciples à la rencontre avec Jésus, hein, qui va constituer le deuxième moment de la constatation de la résurrection. Alors, on a eu un premier moment, j'allais dire, qui nous donne des signes, qui est une sorte de provocation à la foi, mais ce n'est pas encore la rencontre avec le Christ ressuscité. Et là, je vais m'arrêter à deux figures qui joue un rôle particulièrement important, Marie-Madeleine et Thomas. Tout d'abord, Marie-Madeleine. Elle revient au tombeau, elle regarde, parce qu'évidemment, après une moment de frayeur, elle va se confier aux apôtres. Après, elle revient, on imagine, un peu discrètement, en disant « je veux quand même voir ». Elle voit deux anges assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Alors, je m'arrête sur cette indication. Il y a toujours une faute qui se glisse. Une indication qui est précieuse parce qu'elle nous éclaire sur le type de sépulture qui a été utilisée pour Jésus. Ceux qui sont allés en Terre Sainte, je vois que vous êtes plusieurs, vous vous souvenez, il y a deux types de sépultures. Il y a ce qu'on appelle les coquimes et les arcosolia. Alors un coquim, qu'est-ce que c'est? C'est un four. C'est un peu un trou perpendiculaire au mur. C'est tout en profondeur. Voilà. Vous avez une petite pièce, vous avez plusieurs trous comme ça, et il faut aller en profondeur, on mettait le corps. Voilà. L'arcosolium, hein, il fallait plus d'espace parce qu'il fallait une grande pièce, et c'était une sorte de banquette avec un arc au-dessus, et on posait le corps. Alors dans des tombes royales, par exemple, on a des arcosoliums, comme ça qu'on a retrouvé le tombeau de la reine d'Adiabène dans un arcosolium avec un énorme sarcophage en pierre, mais sinon le corps était tout simplement posé. Voilà. Alors ensuite, au 1er siècle, on a pris l'habitude de ramasser les os, de les mettre dans des petits ossuaires. Voilà. L'indication que donne Saint Jean, un ange à la tête et l'autre au pied, ça ne fonctionne qu'avec un arcosolium. Et c'est intéressant de voir que quand les archéologues, il y a, d'ailleurs ce ne sont pas des archéologues, ce sont c'est une erreur ce que j'ai fait, excusez-moi, vous voyez, c'est truffé d'erreurs, ce ne sont pas des archéologues, ce sont des ingénieurs. Voilà, justement les archéologues ont regretté de ne pas être conviés quand il y a eu les travaux au Saint-Sépulcre. Vous savez, il y a deux ans, il y a un an et demi, il y a eu des travaux au Saint-Sépulcre, ils ont consolidé les choses et ils ont fait venir des ingénieurs pour, il y a des problèmes d'humidité, etc. Les archéologues disent, on est juste jeté un petit coup d'œil, mais ça ne leur a pas été confié. Voilà. Cela dit, non, vous pouvez laisser le terme archéologue, parce que quand j'avais marqué, c'est le constat des archéologues. Je pense au père, je ne sais pas si c'est Aliata, je crois, le franciscain, qui est archéologue et qui rapporte, il dit, de fait, on voit bien la banquette qui correspond au tombeau de Jésus à l'endroit où il y a les témoignages. Donc on a quand même un témoignage très intéressant. Donc on a bien ce type de tombe. Voilà. Je termine la parenthèse sur cette attestation du tombeau du Christ en forme d'arcosolium avec le regard de Marie-Madeleine qui voit les deux anges. Marie se tourne. Jean ne dit pas pourquoi. Elle a senti la présence de quelqu'un et elle voit Jésus sans le reconnaître. Ce qui est intéressant, parce que quand je vous disais tout à l'heure, c'est la foi qui permet de reconnaître Jésus, eh bien même Marie-Madeleine, qui a eu la foi, elle a encore un pas à faire, parce qu'elle ne le reconnaît pas. Voilà. Elle le prend pour le jardinier, voilà. Alors le terme de jardinier n'y est pas, mais voilà, elle le prend pour le gardien, c'est ça. C'est au moment où elle entend Jésus l'appeler par son nom, Marie, qu'elle se tourne de nouveau. Et là, elle le reconnaît. C'est un texte que vous connaissez bien, vous êtes déjà posé la question. Elle est happée par, comme fascinée par ce tombeau qui l'attire. Elle a beau se tourner physiquement, le cœur reste happé quand même par la réalité du tombeau. Même si physiquement elle est tournée vers Jésus, dans son cœur, elle ne cesse de dire « mais on l'a enlevé, où l'a-t-on mis ?» C'est pour ça qu'elle lui dit ça, elle dit ça à Jésus. « Tu ne peux être que mort. Tu es là, mais tu ne peux être que mort. » C'est pas possible autrement. C'est-à-dire, d'un point de vue psychologique, ça me semble extrêmement juste et bien vu. On en fait tous l'expérience, surtout, je pense, les plus jeunes. Mais quand il y a une mort, quand on perd quelqu'un, voilà, il y a quand même un vide. Et on est comme happé hein, par cette espèce d'absence. Voilà, et c'est ce qui se passe avec Marie-Madeleine. Hein, c'est ça, le chagrin, la peine. Et donc, Marie-Madeleine ne peut pas imaginer que ce soit Jésus. Il faut que ce soit la parole de Jésus, hein, on aurait pu s'arrêter longuement dessus, à la puissance de la parole, le fait d'être appelé par son nom, qui fait qu'elle reconnaît Jésus, hein, se tournant de nouveau. Donc elle se tourne, mais cette fois-ci, c'est intérieurement. Donc il y a un sens spirituel. Hein, se tournant intérieurement. Hein, d'abord, elle s'est tournée physiquement, mais son esprit était toujours, enfin, je dis, happé, fasciné, plongé dans ce tombeau tout noir. Voilà. Et là, brusquement, elle passe à autre chose. Hein, elle a été appelée par Jésus. Hein. Et Jésus va insister sur ce pas qu'elle a à franchir. Hein, il renforce ce sens spirituel. Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est-à-dire, ne me touche pas, c'est pas ne me touche pas, pas de contact entre nous. Il dit, tu pourras me toucher de nouveau, mais je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc désormais, tu me toucheras sur un mode complètement nouveau, hein, qui sera celui du ciel. Et que désormais, elle ne peut plus le saisir comme elle l'a fait auparavant. L'amour de Marie-Madeleine, qui est connu dans l'Évangile, qui s'exprime de diverses manières, est véritablement marqué, porté par l'espérance. L'amour est appelé à grandir, à se laisser purifier. Désormais, c'est au ciel, donc ça suppose une distance. Ne me touche pas. Désormais, c'est la foi qui prime sur l'expérience immédiate. Jusqu'à présent, il a pu y avoir l'expérience immédiate, mais on sait combien cette expérience immédiate est trompeuse. Désormais, il va falloir que ce soit la foi, hein, qui va plus profondément que l'expérience immédiate du toucher ou du regard. Hein, c'est la foi qui prime. Donc Marie-Madeleine nous dit à sa manière comment l'accès au Christ ressuscité se fait par la foi. Il y a un toucher de la foi. Comme un toucher de la foi, ça c'est un terme de Saint Jean de la Croix, et je pense que c'est tout à fait profond. La foi, c'est pas juste une supposition, c'est le fait de s'appuyer avec son âme, son cœur, sur une vérité. Et donc, si on s'appuie dessus, c'est qu'on la touche bien. Il y a quelque chose de la foi touche en vérité, une vérité ou la vérité. Voilà. La foi ne nous laisse pas à distance. Saint Jean de la Croix dit « La foi est le moyen proportionné, hein, le plus juste qui nous permet d'accéder à Dieu. » Non pas qu'il n'y a pas d'opposition entre l'amour et la foi, mais l'amour risque de s'en tenir à une expérience immédiate et j'allais dire satisfaisante. Enfin, l'amour passe par la foi, parce qu'il y a une certaine obscurité, il y a une distance, il y a un chemin à accomplir. La deuxième figure, c'est la figure de Thomas. Alors Thomas était absent quand Jésus est venu pour la première fois au milieu des apôtres, le soir de Pâques, vous vous souvenez de ce passage, on le connaît tous par cœur. À son retour, les disciples lui disent qu'ils ont vu le Seigneur, et ils demandent non seulement de voir, mais justement de toucher. On retrouve ce thème du toucher, comme Marie-Madeleine. Pas tout à fait sur le mode de Marie-Madeleine. Le mode un peu plus féminin de Marie-Madeleine, qui est peut-être un peu plus délicat. Elle s'approche de Jésus, elle veut le saisir, prendre les pieds. On pense évidemment au moment où elle versait le parfum, ses pleurs, ses cheveux. Voilà. Thomas, un petit peu plus brutal, pas d'une grande délicatesse. Je veux toucher la marque des clous et le côté avec une précision assez grossière. Le doigt pour la marque des clous, parce que ça correspond, et la main pour la plaie dans le côté. On insiste bien. Un petit peu, une espèce de grossièreté, une grosse constatation. On aurait pu dire à Thomas, attends, vas-y doucement, c'est quand même quelqu'un qui était sur la croix, et voilà. Non, je veux vérifier. Voilà. Alors là aussi, on a une indication chez Saint Jean, on a comme ça beaucoup de petites notations très précises. Je l'ai dit à propos de l'arcosolium, cette fois-ci c'est à propos du mode de crucifixion. Il y a très peu d'endroits dans l'Évangile, je crois qu'il y a une fois chez les synoptiques et une fois chez Saint Jean, où on voit que Jésus a reçu des clous dans les mains. Mais c'est pas, il y a peu d'endroits où c'est dit. Donc là, c'est un des rares endroits où il est question des clous dans les mains de Jésus. Hein, les crucifiés étaient attachés à la croix. On avait évoqué ça la dernière fois avec des cordes. Hein, j'allais dire, c'était tout aussi terrible parce qu'ils mouraient par asphyxie. Hein, on n'était pas obligé de mettre des clous. Hein, mettre des clous, ce n'était que ajouter à l'horreur de ce supplice absolument révoltant, enfin ignoble. Pour le coup, c'est là où on voit la gratuité assez diabolique hein, de ce comment faire souffrir quelqu'un. Voilà, la gratuité de la cruauté humaine. Voilà, les clous ne s'imposaient pas. En revanche, on sait que c'était une pratique qui est confirmée par un exemple. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Hein, d'un clou, d'un os humain hein, avec un clou. Je ne sais pas s'il y a encore le morceau de bois à côté. Enfin, on voit des petits dessins. C'est pas très, voilà, pas très beau. Du côté de Jérusalem, voilà, Givat Amidvar. Hein, c'est assez connu des archéologues, donc qui confirmait qu'il y avait bien ce mode de supplice qui existait. Voilà. Alors, on revient aux événements de la rencontre avec Thomas. Ah, vous connaissez le...
Et en fait, c'est ce qui peut justifier qu'en fait, comme c'était un supplice infamant,
oui.
La famille a pu récupérer le corps.
Oui. D'accord. Mais ça, je n'avais pas noté que c'était dans un tombeau qu'on avait retrouvé. Voilà, un détail intéressant. Voilà, donc Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Hein, et avant même que Thomas n'ait exprimé son souhait, Jésus lui demande de mettre... Ça va de son côté. Donc, on voit bien comment Jésus devine les intentions hein, des cœurs. On a déjà ça au début de l'évangile, mais après la résurrection, on voit que Jésus a cette capacité d'être présent à chacun et auprès des uns et des autres. Et voilà. Et il lui demande ce qu'il lui demande surtout, c'est ne deviens pas incrédule, mais croyant. Hein, pour Jésus, c'est cela qui compte. Hein, l'évangile ne dit pas que Thomas a réellement plongé ses doigts dans son côté. Hein, j'entends trop souvent des enseignements, et pardon pour mes chers confrères prêtres, mais qui insistent sur le fait de dire « Eh ben oui, Thomas a pu constater, il témoigne, il a mis ses doigts, il a mis ses mains. » L'évangile ne le dit pas. L'évangile ne le dit pas. Hein, il a accepté de poser l'acte de foi. Peut-être qu'il l'a fait, mais l'évangile ne le dit pas. Et s'il ne l'a pas fait, je pense que précisément, ça a d'autant plus de force, parce que c'est ça que Jésus attend de lui. Hein? Mon Seigneur et mon Dieu, donc profession de foi dans l'évangile, on peut dire la première, bon, il y a plusieurs passages où on dit que c'est la première profession de foi, mais sur la divinité du Christ, hein, qui est évidemment d'une très grande force, et qui montre que Thomas a franchi le pas, non pas parce que, encore une fois, il y a la cohérence des lectures dans l'Ancien Testament, ou que c'est une supposition, mais parce qu'il est devant un fait, devant un événement. Hein, il y a cette réalité dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Hein. Et Jésus en tire une béatitude qui s'ouvre à tous les disciples, hein, à travers tous les âges, parce que Jésus parle de ceux qui viendront après. Hein, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui, n'ayant pas vu, croient. Alors, je réagis contre ceux qui disent « Saint Thomas est le patron des incrédules ». On a précisément Thomas qui croit. On va dire, oui, mais avant, il ne croyait pas. D'accord. Mais avant, il ne croyait pas parce qu'il n'avait pas vu Jésus. Les apôtres, tant qu'ils n'avaient pas vu Jésus, ils ne croyaient pas plus que Thomas. Regardez chez Saint Luc, même en voyant Jésus, dans leur joie, ils ne croyaient toujours pas. Donc, les apôtres sont exactement comme Thomas. Hein, faut pas oublier ça. C'est parce qu'il y a un décalage. Thomas était absent. Peut-être aller faire les courses ou je ne sais pas quoi, donc il n'a pas vu Jésus, mais ça aurait été n'importe quel apôtre. Dès que Jésus est présent, Thomas n'a même pas besoin de le toucher, il croit. Thomas n'est pas le patron des incrédules. Voilà. Thomas est le patron, il n'est pas non plus le patron des crédules, parce que crédule, c'est pas un terme très positif non plus, mais Thomas, précisément, a fait ce que Jésus pouvait attendre de lui, il a vu et il a cru. Et c'est très bien, Jésus ne lui reproche pas d'avoir vu. Jésus ne reproche pas à Thomas d'avoir vu. Et c'est même très important qu'il ait été vu. On abandonne trop rapidement la question de la vision. Or, ce que Jésus demande de faire, c'est pas de renoncer à la vision comme si c'était quelque chose de mauvais, mais de dire la vision vous a permis de réaliser, de faire une expérience, vous êtes témoin. Et comme le dira saint Jean, nous avons vu, nous avons touché. Ça, c'est l'âge des apôtres. Ils ont vu, ils ont touché. Mais le mode essentiel et le plus profond, c'est celui de la foi, qui permet d'aller plus loin que le toucher. Parce que c'est une vision intérieure, c'est un toucher intérieur, qui est plus fort encore que si on avait Jésus en chair et en os devant nous. On l'aurait peut-être devant nous, on serait incapable de le reconnaître comme Marie-Madeleine. Voilà. Mais voyez, il faut bien comprendre les choses avec leurs nuances. Jésus ne reproche pas à Thomas le fait d'avoir vu, sans ça il ne serait pas apparu, mais il dit, ce qui est bien, c'est le fait que tu as cru. Heureux ceux qui, n'ayant pas vu, parce qu'ils ne verront pas, croiront. Voilà. Désormais, c'est par la foi que les disciples connaîtront Jésus. Voilà. Entre les deux épisodes, l'apparition de Jésus aux disciples le soir de la résurrection constitue un envoi en mission. Un envoi en mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà dans les synoptiques, les apparitions du ressuscité et l'envoi en mission qui sont liés. Et comme dans les synoptiques également, seuls les apôtres sont concernés par cet envoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, Jésus n'apparaît qu'à ceux qui sont prêts à croire en lui. Ce sont les apôtres qui sont là, qui vont être l'objet de cet envoi en mission. Et puis on a aussi chez saint Luc l'idée que l'envoi en mission est accompagné d'une effusion de l'Esprit Saint. Jésus chez saint Luc qui dit vous allez recevoir l'Esprit Saint, une force d'en haut, et vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et bien là, c'est ce qui se passe. Jésus souffle sur eux et leur dit recevez l'Esprit Saint. On a l'impression que l'Esprit vient du souffle de Jésus, il souffle sur eux, voilà. Et voilà, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et alors, quel est le contenu de cette mission? Eh bien, c'est de transmettre la miséricorde. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et ce n'est pas des paroles en l'air, en disant, ben, soyez mes joyeux témoins. Ce qui est très bien, enfin, j'espère que vous êtes tous des joyeux témoins de Jésus-Christ, mais pour les apôtres, c'est réellement la remise d'une autorité, d'un pouvoir. Alors ça a beaucoup compté dans la théologie sacramentelle, le fait que Jésus ne donne pas que des paroles aux apôtres, il ne donne pas que des paroles à transmettre, ce n'est pas un message. J'ai été gêné quand on nous dit le message de l'évangile, moi ça ne me suffit pas. Jésus fait plus, donne plus qu'un message, il constitue son Église, en confiant réellement aux apôtres un pouvoir de remettre les péchés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est-à-dire que ça dépendra de votre action dans l'Église, de remettre ou de ne pas remettre les péchés. Et le but de Jésus, ce n'est pas de dire, vous verrez, il y en a, il ne faut pas leur remettre. Je crois que l'idée de Jésus, évidemment, c'est que la miséricorde atteigne tous les hommes. Mais c'est de dire aux apôtres, attention, il dépend de vous, du ministère que vous allez recevoir, de transmettre cette miséricorde, cette remise des péchés. C'est le résumé de l'œuvre de la rédemption. Voilà. Au sein même de ces deux scènes de reconnaissance, Marie-Madeleine et Thomas, qui ont pour conclusion d'entrer dans la foi, Jésus pose les bases, les jalons de ce qui va se poursuivre ensuite à travers les apôtres. Voilà. Petite étape avant de poursuivre au bord du lac, ça va ? S'il y a des questions, on verra à la fin, mais pour l'instant, ça va, d'accord. Alors, nous faisons un petit déplacement vers le nord, à combien, c'est quoi, c'est 100, une centaine de kilomètres, à peu près. On passe le long du Jourdain, je ne sais pas quel est le trajet que les disciples ont suivi, et ils se retrouvent au bord du lac de Tibériade. D'un point de vue littéraire, ce passage est un peu étonnant, parce qu'il fait suite à la conclusion du chapitre 20, qui concernait tout l'évangile. Donc, ça, on en avait parlé au début. Première conclusion, et le chapitre 21 qui aurait été ajouté. Pour certains, c'est un ajout tardif, mais il y a suffisamment de contact avec ce qui précède pour qu'on voit véritablement une unité dans le corpus. Au plan narratif, donc, la scène se passe sur le bord du lac de Tibériade. Tout d'abord, la pêche miraculeuse. Je vais passer rapidement dessus. hein, une pêche qui rappelle celle rapportée par saint Luc au début du ministère, vous vous souvenez au chapitre 5, hein, dans les deux cas les disciples sont dans la barque de Pierre, ils ont peiné toute la nuit sans rien prendre, hein, Jésus leur donne l'ordre de jeter les filets, ils prennent un grand nombre de poissons, hein, Pierre réagit avec sa spontanéité, on retrouve pas mal d'éléments, hein, et c'est à cette occasion chez saint Luc, hein, que Jésus appela Pierre à le suivre. De nouveau, dans cette scène du chapitre 21 chez saint Jean, Jésus va s'adresser à Pierre. Mais la différence, évidemment, c'est qu'on est après la mort et la résurrection. Et ça va changer beaucoup de choses. Un petit détail, le filet ne se déchire plus. Une petite notation chez saint Jean, mais intéressante. Jean ne le développe pas, il ne revient pas dessus. Mais il y a quand même, je crois, quelque chose à retenir. Hein, l'image, en tout cas, a été reprise par les pères de l'Église. Hein, le filet ne se déchire plus parce que la mort et la résurrection de Jésus, ça a été la réconciliation. Hein, là où le cœur de l'homme était divisé, il était divisé d'avec Dieu. Et donc, cette figure de l'Église, avec les 153 poissons, hein, le nombre de poissons qui étaient, de catégories de poissons qui étaient connues dans l'Antiquité, dit-on, hein, selon les écrits de Pline, le jeune ou l'ancien, oublier lequel c'était, s'il y en a qui sait, si c'est Pline le jeune ou l'ancien, ben c'est pas très grave. Voilà, l'universalité et le filet, hein, qui ne se déchire pas, c'est l'unité de l'Église. Voilà. Donc il y a bien quelque chose qui a changé. Hein. Je n'ai pas développé, j'aurais été heureux de le faire, mais le temps est limité. Comment se fait-il qu'on est dans une scène où apparemment rien n'a changé par rapport à avant la résurrection ? On peut dire, ben, ils reviennent à leur travail, comme si finalement la page était tournée. Voilà. Et apparemment, rien n'a changé. Profondément, tout a changé. Voilà. On le voit avec ce filet qui reste uni. Et puis, il va y avoir cet envoi en mission. Troisième fois que Jésus se manifeste aux disciples. Donc, on est vraiment dans cette idée du témoignage qui va s'appuyer sur des expériences très concrètes. Première rencontre devant les disciples sans Thomas, deuxième rencontre avec Thomas, et troisième au bord du lac de Tibériade. Alors la mission confiée à Simon-Pierre. Ça c'est évidemment un passage qui est de grande importance au moment de terminer l'évangile. Tout au long de la scène et de la passion, on a vu le lien très fort entre le disciple que Jésus aimait, saint Jean très probablement, et Pierre. C'est le disciple que Jésus aimait, qui a transmis à Jésus la question posée par Pierre sur le traître, qui va te trahir, les deux sont allés ensemble au sépulcre, voilà, c'est le disciple que Jésus aimait, qui est dans la barque, en reconnaissant le Seigneur, a permis à Pierre de se jeter dans l'eau pour aller à sa rencontre. Voilà. Donc, on les voit à peu près dans tous les récits, l'un et l'autre intervenant en s'appuyant, j'allais dire, l'un sur l'autre. Cependant, l'évangéliste a marqué un fort contraste entre les deux, puisque le disciple que Jésus aimait était au pied de la croix, tandis que Pierre, lui, venait de trahir. Et puis, une autre différence, c'est le fait que le disciple que Jésus aimait a cru, dès qu'il a vu la tombe vide, sans avoir besoin de rencontrer le ressuscité, Pierre, lui, il a eu besoin de voir le Christ ressuscité. Pourtant, c'est à Pierre que Jésus va s'adresser. Donc il y a quelque chose quand même de très intéressant. Ce n'est pas parce que Pierre a plus d'enthousiasme et de proximité ou de foi ou que sais-je, que Jésus va s'adresser à lui. Il y a vraiment un choix posé par Jésus. Jean a cru le premier, Jean a réagi le premier, Jean, etc. Le premier, il était au pied de la croix, il n'a pas renié. Pourtant, on voit comment le choix de Jésus se porte vraiment sur Pierre. Alors, je vois deux grands aspects que je vais développer. D'abord, la question de la miséricorde et ensuite la question de la mission. Par trois fois, Jésus interroge Pierre. M'aimes-tu ? Je pense que c'est partie des textes qu'on connaît le mieux du Nouveau Testament, un texte qui nous touche évidemment beaucoup. Évidemment, on imagine le choc dans le cœur de Pierre. Cœur de Pierre, vous voyez. Mais le cœur du pauvre Pierre, il n'était pas trop de Pierre quand même. C'est un cœur de chair. Un cœur capable de s'ouvrir. Mais évidemment, il a en mémoire le reniement. Donc les questions de Jésus, évidemment, ont beaucoup de force pour lui. Jésus va donner à Pierre le moyen de professer triplement son amour, alors que trois fois Pierre l'avait renié. Alors, il faut faire attention. Quelquefois, il y en a qui disent, de toute façon, Pierre a renié, Judas a trahi. C'est à peu près la même chose. C'est pas la même chose. Pierre n'a pas perdu la foi. C'est son amour qui s'est trouvé confronté à ses propres limites. Voilà, je t'aime, mais en fait, jusqu'à une certaine limite, parce qu'à un moment, je ne peux plus te suivre. J'ai peur de payer moi aussi. D'où le reniement. Eh bien, par trois fois, Jésus va permettre à Pierre de confesser son amour. Les pères de l'Église ont interprété cette triple question de Jésus comme un acte de miséricorde et de pardon. On l'a chez saint Augustin. Trois fois, Pierre, tu as renié. Trois fois, Pierre, tu as confessé ton amour. Voilà. Ou saint Jean Chrysostome. Jésus voulait montrer à Pierre que la souillure de son renoncement était effacée. Alors, ce sur quoi je voudrais m'arrêter, c'est la progression dans les questions de Jésus. De l'amour divin, de l'amour le plus élevé, à l'amour humain. Je vais reprendre les trois questions de Jésus. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? Un peu plus loin, m'aimes-tu ? Et enfin, m'aimes-tu ? Avec deux verbes différents. Les deux premières fois, c'est le verbe agapé, qui est employé à propos de l'amour de Dieu, l'amour de charité, l'amour de totale gratuité, qui est propre à Dieu, et que Jésus, dans sa passion, met à l'œuvre jusqu'à l'extrême. Jésus ayant aimé les siens, verbe agapé, les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Donc, agapé, c'est l'amour divin vécu dans l'humanité de Jésus jusqu'à la croix. Donc on a l'amour le plus fort. Le verbe philaigne, c'est pas un amour de bas étage, c'est un terme philaine, c'est un amour qui a beaucoup d'importance dans la pensée grecque, dans la culture grecque. L'amour d'amitié, quelque chose d'extrêmement noble, mais c'est un amour humain. On dit que Jésus aimait Lazare, qui avait cette amitié, cette philia. Encore une fois, c'est le terme de philaine est très très beau, mais chez saint Jean, ça n'a pas tout à fait le même sens qu'agapei. Voilà. Il y a un amour d'amitié avec Lazare. Eh bien, quelle est la progression des trois questions ? Dans la première, Jésus demande à Pierre l'amour le plus élevé, un amour divin. Est-ce que tu m'aimes d'agapé ? Et il a sorti cette question d'une autre une petite clausule. Est-ce que tu m'aimes d'un amour divin plus que ceci ? Dans la deuxième question, l'ambition est un petit peu moindre. Est-ce que tu m'aimes, mais quand même de l'amour le plus élevé ? Mais sans dire plus que ceci. Et ces deux fois, Jésus a dit « M'aimes-tu, agapé ?» Et Pierre répond « Je t'aime, philo, d'un amour humain. M'aimes-tu d'un amour divin plus que ceci ?»« Je t'aime d'un amour humain. » Alors, est-ce que tu m'aimes d'un amour divin ?« Je t'aime d'un amour humain. » Troisième question, Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour humain ? C'est extraordinaire. Et on comprend les pleurs de Pierre, parce qu'il a été touché, parce qu'il sait que, cette fois-ci, il a compris qu'il ne peut plus être présomptueux comme il l'était, un peu inconscient. Je te donne tout ce que je peux te donner. Alors, c'est une interprétation. J'ai vu un exégète qui, une seule fois, chez un excellent exégète, il n'était pas d'accord avec ça, il dit la philia en Grèce était quelque chose de très élevé, de très important, et donc la philia est supérieure à l'agapé, donc ça ne fonctionne pas. Moi, je regarde pas chez les auteurs grecs, je regarde chez saint Jean, et chez saint Jean, je crois vraiment, enfin les autres exégètes le disent, l'agapé est supérieur à la philia. L'agapé, c'est l'amour divin. C'est ce qui caractérise l'amour de Dieu. Donc il y a bien cette progression. Donc, Jésus passe bien d'une demande faite à Pierre, d'un amour divin à un amour humain, c'est-à-dire, aime-moi selon l'amour que tu peux me donner. Il y a une sorte de condescendance, d'abaissement de la part de Jésus, c'est vraiment la miséricorde. Je crois que c'est... Ah oui, ah bah écoutez, dans la vie, les évangiles de Jésus. D'accord, il reprend ce thème. Voilà. Ah, ça me semble très très important. Et là, on a l'amour même, pour le coup, l'amour divin de Jésus, qui est capable de s'abaisser jusqu'à l'amour de l'homme. Seigneur, je ne peux pas te donner grand-chose, mais je te le donne. Je sais, une très belle homélie d'un prêtre qui prêchait très simplement. Il prêchait sur la barque de Pierre. Seigneur, ma barque est toute petite. Et Jésus qui répond, oui, mais c'est dans ta barque que je veux monter. Ouais. Même si c'est ta petite barque, elle me suffira. Ouais, c'est comme ça que commence toute la mission. Ouais. Avant la passion, Pierre avait protesté de son attachement au Christ, exprimé son désir de le suivre en donnant sa vie pour lui. Promesse généreuse, mais aussi présomptueuse, ou au moins inconsciente. Il a douloureusement compris qu'il y avait une distance entre l'amour affectif et l'amour effectif. L'amour affectif qui était incontestable. Je t'aime plus que les autres, pas de problème. Rassure-toi, Jésus, je serai là. Rassure-toi, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, je te protège. Voilà. Puis Jésus dit, attends, Pierre. J'allais parler de toute façon, dire calmos. Je ne pense pas que Jésus ait parlé comme ça. Calme-toi. Pierre s'en est rendu compte. Après la passion et la résurrection, il se met à sa portée pour lui permettre un nouveau départ dans sa vie de disciple. Mais aussi, ce qui est très beau aussi, c'est que avant la passion, Jésus avait promis à Pierre, tu me suivras plus tard. Et donc, il prend tout à fait au sérieux les protestations d'amour de Pierre. Oui, ce que tu me dis, tu vas peut-être te casser la figure, mais je t'assure qu'à un moment, tu le réaliseras vraiment. Tu me suivras plus tard. Et là, l'évangile se termine avec cette parole extraordinaire, suis-moi. Puisque Jacques évoque Benoît XVI, il y a cette homélie bouleversante des obsèques de Jean-Paul II par Benoît XVI, où il a repris ce « suis-moi » qui a marqué la vie de Jean-Paul II. Voilà, quelque chose de très très beau. Alors justement, c'est ça que je voudrais voir, je vais revenir dessus sur le « suis-moi ». Voilà, la mission. La mission, il y a un itinéraire propre à Pierre, mais son sort est lié à celui de toute la communauté. Ça, c'est le grand débat. Je reviens souvent aux questions, parce qu'il y a des questions d'ecclésiologie, avec nos amis orthodoxes et protestants et catholiques, sur la place de Pierre, évidemment. Évidemment, comme le disent nos amis protestants et orthodoxes, il y a quelque chose qui s'adresse à la communauté. Mais il y a bien cette idée que Pierre est... a quelque chose de particulier pour lui, mais évidemment, son sort est lié à la communauté. Le dialogue a un caractère ecclésial très fort. Et alors là, évidemment, c'est marqué à travers la mission qui est donnée à Pierre, à Simon. Paix mes agneaux, paix mes brebis, paix mes brebis. Alors là, en regardant... chez les exégètes ou en étudiant le vocabulaire, il n'y a pas de différence... d'une importance décisive entre les termes d'agneau et de brebis. Pas à ma connaissance. Voilà. Pierre reçoit une mission à l'égard des brebis, le terme de brebis, qui dans l'évangile désignait les disciples de Jésus. Il y a 19 occurrences du terme de brebis probaton chez saint Jean. Il y en a 15 dans la parabole du bon pasteur et 2 dans notre passage. Donc, c'est intéressant de regarder le terme qu'il dit « paie mes brebis », on va regarder le chapitre 10. Qu'est-ce qui était dit au chapitre 10? C'est que Jésus est le bon pasteur et que les brebis sont les brebis qui appartiennent au bon pasteur. Donc, c'est très important de le comprendre, les brebis que Jésus confie à Pierre, ce sont ses brebis et non pas celles de Pierre. Un point en ecclésiologie qui est très très important. Le successeur de Pierre, c'est pas lui le patron de l'Église. Le patron, c'est Jésus. Le patron de l'Église, c'est Jésus. Il est là au service des brebis de Jésus. Mais d'un point de vue sacramentel, c'est très important. Le prêtre, c'est la même chose. Le prêtre, évidemment, il va dire ma paroisse, mes fidèles. Ah, ça, c'est un jeune à moi. Ah, ben, ça, c'est moi qui l'ai formé. C'est très sacerdotal, ça, entre prêtres. Ah, c'est toi qui, oui, c'est moi qui. Toi qui l'as formé. C'est le gars qui rentre au séminaire. Ah, ben, c'est un de mes fils. Ouais, je vous raconte les trucs entre prêtres, là, on est un peu comme ça. Mais après, un peu en rigolant, on dit, bon, faut qu'on se calme un peu quand même. C'est pas, en fait, on sait bien que ça s'est passé entre le jeune et Jésus, et c'est pareil pour les, voilà, dans une paroisse, hein. Voilà. Paix, Jésus dit bien, paix mes agneaux. On a l'équivalent chez saint Matthieu, chapitre 16, hein. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est bien l'église de Jésus. D'accord? Paix mes agneaux, paix mes brebis. La mission de Pierre, donc on arrive à peu près à la situer, elle est particulière, elle est au service de tous, et Pierre s'efface devant Jésus qui reste le bon pasteur. Cette mission a un double caractère. Premièrement, elle est liée à l'expérience de la miséricorde. Alors c'est intéressant parce que il en avait été question de façon très allusive au début de l'évangile, mais ce n'était pas suffisant pour dire que cette mission était fondée. Hein, au début de l'évangile, il y avait le nom qui était donné à Pierre, hein, mais sans expliciter quelle serait sa mission. Chez les synoptiques, hein, Matthieu, Marc et Luc, c'est pendant le ministère en Galilée que Jésus confie à Pierre la mission d'être le pasteur de l'Église. D'accord. Chez saint Jean, ça vient après la passion et la résurrection. Ça veut dire quand Pierre a fait l'expérience de la miséricorde. Vous voyez que c'est dans cette expérience de la miséricorde, hein, Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, je t'aime. C'est là qu'il reçoit véritablement sa mission d'être le pasteur. Donc il y a un lien extrêmement étroit chez saint Jean entre la mission, le caractère institutionnel, et l'expérience de la miséricorde. C'est là qu'on peut dire que l'Église institution est vraiment née de la miséricorde du Seigneur, pour que Pierre, ayant fait l'expérience du pardon, puisse lui-même devenir le pasteur et transmettre ce pardon. D'accord ? Donc ce lien très étroit qui est tout à fait caractéristique de saint Jean. Deuxième aspect, alors très caractéristique chez saint Jean également, c'est qu'il y a bien une mission confiée à Pierre, mais elle ne se comprend que dans le cadre de la vie de disciple. Il faut que Pierre se situe en tant que disciple. La mission de Pierre est reçue par quelqu'un qui apprend ce que c'est que suivre Jésus. C'est ça un disciple, c'est quelqu'un qui met ses pas dans les pas du maître, donc de Jésus. Et ses pas le conduiront là où il ne voulait pas. Alors là, l'allusion est de plus en plus forte. Tu étendras tes mains et c'est un autre qui noiera la ceinture. Annonce de la crucifixion. Jean le dit de façon clairement. Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu, c'est-à-dire attaché au poteau, à la croix. Et c'est le témoignage qui nous est donné par Clément de Rome. Alors, il ne précise pas la crucifixion, ça c'est une tradition un peu postérieure. Mais on a une allusion quand même dans l'évangile. Voilà. Mais il faut que Pierre apprenne à être disciple. Donc, expérience de la miséricorde et apprendre à être disciple pour que sa mission soit justement comprise comme une mission spécifique au service de l'Église. Je termine, et il restera un petit peu de temps pour des questions ou revenir sur tel ou tel point. La conclusion, eh bien, c'est la double conclusion de saint Jean, la finale du chapitre 20, la finale du chapitre 21. Premièrement, Jean nous dit qu'il y a eu beaucoup d'autres signes. C'est intéressant parce que, est-ce que vous vous souvenez, au début de l'évangile, vous avez dit, il y a le livre des signes, avec les miracles, et puis la conclusion au chapitre 12, bien que Jésus ait fait beaucoup de signes, leur cœur était endurci, ils étaient incapables de reconnaître, donc ils ne croyaient pas. Ensuite, voilà, le livre de l'heure, chapitre 13, l'heure est venue, Jésus ne fait plus de signes, tout au moins le signe ultime, c'est celui de sa mort et de sa résurrection. Voilà. Et le terme de signe, c'est la seule occurrence dans le livre de l'heure. Donc, signe recouvre à peu près tous les enseignements, les actes de Jésus. Les actes, les paroles de Jésus. Jean les a écrits. Alors, c'est intéressant, c'est à l'aoriste. L'aoriste, en grec, c'est une forme qui indique un acte dans le passé, qui ne se continue pas, qui est terminé. Mais il témoigne, et il le met au présent. Ce disciple sait que tout cela est vrai et il témoigne aujourd'hui que ce qu'il a écrit, c'est vrai. l'écriture est passée, ça veut dire qu'elle a la force, un peu comme un testament, comme quelque chose de définitif, hein, dans la mort et la résurrection de Jésus est quelque chose de définitif, c'est fini. C'est-à-dire fini au sens où c'est plein, c'est complet, c'est parfait, c'est achevé. Mais le témoignage, lui, est présent. Et c'est ce que fait l'Église. Elle témoigne aujourd'hui. Hein, le disciple témoigne à travers l'Église qui témoigne. Hein, le Christ, Verbe de Dieu, Verbe fait chair, Fils de Dieu, hein, pour qu'à chaque génération, hein, les hommes, en le recevant par la foi, aient la vie en son nom. Et une dernière remarque, parce que là je ne fais que reprendre ce que saint Jean a dit comme conclusion. Le verset final de l'évangile est un peu étonnant. Hein, il a fait beaucoup de choses, et si on mettait par écrit tout ce qu'a fait Jésus, le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrirait. Alors, j'ai entendu des gens dire, il est un peu marseillais. Voilà, je ne sais pas s'il y a des marseillais parmi vous, mais il paraît qu'à Marseille, on en rajoute un petit peu. Voilà, j'ai pris une sardine, elle était... Attends, elle était grosse comme ça, hein. Voilà. Alors, le monde entier ne suffirait pas. Pourquoi saint Jean dit ça? Ben parce que c'est vrai. Ben parce que c'est vrai. C'est pas que Jésus a fait plein de choses qu'on peut accumuler de façon un peu extérieure, mais il y a une profondeur, j'allais dire une sorte de richesse de ce que Jésus a accompli, et que une vie humaine et que le monde ne peut pas contenir. Ce que dit Jean, ce n'est pas simplement un effet de style, espèce de... Hein. On retrouve cette idée de la prodigalité de Jésus qu'on a dans les évangiles. Hein, le miracle de Cana, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin, avec 600 litres. Hein, la multiplication des pains, ils ramassèrent ce qui restait, 12 couffins. Et on sait que 12, c'est le chiffre de la surabondance. 7, c'est la perfection, parce que c'est 4 plus 3. Et 12, c'est la surabondance, parce que c'est 4 fois 3. Voilà. Jean chapitre 6, 12 couffins. Jean chapitre 7, celui qui croit en moi, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. L'abondance, voilà. Chapitre 21, 153 poissons. Une totalité. Cette surabondance qui est vraiment la marque de Dieu. Dieu, le Père, donne l'Esprit sans mesure. Il donne l'Esprit en surabondance. Jean chapitre 3. La surabondance est véritablement une marque de l'Esprit Saint, hein, une marque que c'est Dieu qui agit. C'est finalement la conséquence de l'affirmation, le Verbe s'est fait chair. Donc celui que rien ne peut contenir est entré dans ce qu'il y a de plus limité, de plus fragile. Voilà. Donc cette surabondance qui est donnée dans notre fragilité, eh bien, c'est ça qui se passe dans l'Église. L'Église, conduite par l'Esprit Saint, n'aura jamais fini d'épuiser la richesse contenue dans la chair, le Verbe s'est fait chair, dans les signes qui sont porteurs d'une signification que nous continuons de décrypter. Ce que le cardinal Newman appelle le développement de la doctrine chrétienne. Tout est contenu dans l'Évangile comme dans une graine, mais l'arbre ne cesse de grandir et on n'a pas fini d'explorer toutes les richesses de la foi. Et puis c'est un peu ce que Jésus disait. Vous allez recevoir l'Esprit Saint et l'Esprit Saint vous conduira jusque dans la vérité tout entière. Cette plénitude de la vérité dans laquelle nous sommes introduits si nous écoutons l'Évangile et si nous l'accueillons dans la foi. Voilà. Être conduit à la vérité tout entière, c'est ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur à la lecture de l'Évangile. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions?
J'ai pas une question, je dis que pour s'occuper pendant qu'on sera au ciel, comme ça on n'aura pas à s'occuper.
Eh bien, on pourra lire l'Évangile de saint Jean. Catherine, ah, bien sûr. Bien sûr, oui. Catherine. Pardon?
Il sera là-haut, il va nous l'expliquer.
Il nous l'expliquera, oui. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions qu'on pourra lui poser. Oui, oui. Comme chef de l'Église. C'est Pierre. Ah oui, il aurait pu choisir d'autres apôtres. Oui, oui, c'est vrai que l'argument de dire ce qui allait contre lui, c'était, je sais pas, moi je. Oui. Oui. Là, brusquement, je vais dire, en fait, peut-être qu'il avait 25 ans. Ou... oui. Mais c'est vrai que ce qui fait qu'on lui donne un âge très jeune, c'est qu'il y a le témoignage rapporté par Eusèbe que Polycarpe l'a rencontré. Voilà, vous connaissez bien, vous avez bien étudié. Voilà, il y a le témoignage de Polycarpe qui l'a vu, et donc comme on est autour de 95, 90, 100, quelque chose comme ça, donc il faut imaginer que Jean a quelque chose comme 16 ou 18 ans. C'est vrai que l'argument peut... voilà, mais il y a suffisamment de moments dans l'Évangile où on voit la liberté de Jésus. Oui. Oui, c'est chez saint Paul, la première aux Corinthiens. Ah, ça, on peut imaginer toutes sortes de choses. Mais tout cela n'a pas été écrit, et ce qui a été écrit l'a été pour que nous croyions, et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle. Oui. Tout à fait. Saint Jean rapporte les choses de cette manière, ça veut dire que la cohérence de son évangile permet de comprendre la vérité de l'acte, même si matériellement, il y a des choses qui sont rapportées par les autres évangélistes. Il faut bien comprendre que la manière de raconter va orienter notre lecture, et donc notre lecture théologique, et donc nous donner accès à la vérité de l'événement. Oui. Oui. D'accord. Oui. Wesley.
Comment peut-on comprendre que les disciples, Marie-Madeleine, les disciples de Marie, les apôtres, ne reconnaissent pas Jésus ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bien, on voit que dans l'Évangile, Jésus il est dans la chair, mais sa chair est ressuscitée. Donc il y a un changement qualitatif et que son rapport à la création, au monde, n'est plus tout à fait le même. Il y a comme une espèce de liberté par rapport aux limites, aux contraintes de la chair. On le voit apparaître au milieu des apôtres. Il est à Emmaüs. Comment a-t-il pu arriver à Jérusalem? Alors, le père Kowalski nous avait fait une démonstration pour montrer qu'avec un petit âne, il avait pu arriver avant. Ça, je n'en sais rien. Les évangiles ne disent rien. Mais je crois qu'il y a quand même cette liberté. Je crois que je m'inspire de ce que dit le père Giton, qui semble assez juste par rapport à cette question. C'est que nous voyons notre chair selon l'expérience qui est la nôtre, ce qui est absolument normal, d'une chair qui est marquée par le péché, qui est marquée par une espèce de rapport un peu pesant à la chair. D'ailleurs, la souffrance, quand on est malade ou n'importe quoi, il y a quand même un dérèglement dans la création. Or, il y a une potentialité dans notre chair que nous ne connaissons pas, d'une certaine manière qu'on découvre avec les saints, hein, ou quand il y a des miracles. Hein, les corps conservés, quand on voit les corps des saints qui sont conservés, Germaine de Pibrac, 50 ans après sa mort, on ouvre le tombeau, il y a un parfum extraordinaire qui s'échappe. Moi, j'avoue que j'attache une certaine importance à ces témoignages qui sont assez authentiques. En plus, en plein XVIIIe siècle, où on était très rationaliste, on dit les gens très étonnés, en Orient, ils insistent beaucoup dessus, la transformation de la nature, eh ben, on le voit de façon excellente avec Jésus. C'est bien dans la chair, il dit à un esprit, un fantôme ne mange pas, donnez-moi quelque chose à manger. Il dit à Thomas, vas-y, voilà, mets tes mains, etc., si tu veux. Donc, c'est bien dans sa chair. Mais la chair est transformée véritablement par la résurrection.
Oui. Ouais. Mais oui. Chair,
il n'ouvre pas les portes.
Il n'ouvre pas les portes, voilà. Et il est là, réellement, mais il y a quelque chose d'un peu indescriptible, je pense. Un peu. Ouais, oui. Oui. Il y avait. Alors là, ben. Alors, ça faisait un moment qu'il posait la question et puis je vous donne la parole.
Oui, vas-y. Pourquoi dans les quatre évangiles, les apparitions de Jésus sont différentes?
Oui. Alors. Alors, là, tu appuies là où ça fait mal, parce qu'il y a une description des événements qui, si on les prend au pied de la lettre, sont très difficiles à mettre ensemble. Une des contradictions, d'ailleurs, qu'on a même chez Saint-Luc, parce qu'il y a un moment où il va mettre l'ascension le soir même de la résurrection, et un autre moment 40 jours après. Voilà. Il y a les rencontres en Galilée ou à Jérusalem. Voilà. Donc ça, ce sont des difficultés littéraires. Alors, que conclure de ces difficultés littéraires? C'est que si... Est-ce que ça remet en cause la réalité des événements? Vraiment, je ne le crois pas. D'une part, l'Évangile va reprendre les événements tels qu'ils ont été rapportés, mais en les composant dans une perspective de témoignage, avec un contenu théologique. Donc, que la matérialité des événements ne soit pas rapportée telle qu'elle par tel ou tel évangéliste, ce n'est pas gênant. Il veut nous donner un enseignement qui va nous conduire à la foi sur la base d'événements tout à fait réels. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les difficultés, bien souvent, on avait purement une invention littéraire de la part des évangélistes, ils s'y seraient pris autrement, ils auraient bien mieux harmonisé les choses. L'Église n'aurait pas gardé, ça c'est un argument qui est très souvent repris et que je crois assez juste, on n'aurait pas gardé des textes avec ces contradictions. On a plutôt l'impression que l'Église a voulu garder ce témoignage tel quel, quitte à ce que, à ce qu'il y ait des contradictions, et dont certaines sont difficilement surmontables, j'allais dire, d'un point de vue strictement littéraire. Voilà.
J'avais la question, est-ce que l'amour, acte d'agapé, est à la portée de l'être humain ?
Précisément, c'est toute la théologie. Alors, c'est un peu curieux chez... dans les évangiles, on n'a pas toute la théologie de la grâce qui sera développée chez saint Paul, mais saint Paul insiste beaucoup pour dire que l'Esprit Saint vient en nous, il vient au secours de notre faiblesse, et du fond de notre faiblesse, il vient crier « Abba, Père ». Donc, ce qu'on pressent déjà chez saint Jean, c'est très développé chez saint Paul, et il y a réellement une transformation du chrétien par le baptême, une participation à l'agapé divine. Donc ça, c'est...
conformation au Christ qui vous...
Mais mystérieusement, par la foi, pour nous, ce sera toujours dans la foi, dans une certaine invisibilité. On le voit avec les grands docteurs de l'Église qui ont le plus insisté sur la foi. Je pense à Jean de la Croix et à Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est vraiment, il y a tout un enseignement sur la foi. Ils ont beaucoup souffert à certains moments de leur existence, pour Thérèse, ça a été sa dernière année, de l'obscurité de la foi, a été une obscurité, mais la foi était là, et c'était aussi des docteurs de l'amour, parce que ils étaient, on voit à quel point dans leur vie, ils étaient habités par cet amour complètement divin, mais que eux, d'eux-mêmes, ils ne percevaient pas, mais que l'Église a été capable de discerner, selon l'image qui était donnée par un littéraire, dans un roman que je... assez beau, il dit, c'est les saints, c'est comme les étoiles. Elles rayonnent pour tous, mais elles-mêmes ne se voient pas rayonner. Voilà, les plus grands saints, c'est beau, souvent Pierre Goursat, pas canonisé, mais le fondateur de l'Emmanuel, une telle humilité que, bon voilà, moi, je suis un pauvre homme comme ça, mais un rayonnement autour de lui est extraordinaire. Voilà, mais je pense que la foi, pour nous, ce qu'on peut souhaiter, justement, c'est d'être simplement dans la foi, et plus on est dans la foi, et plus on se laisse transformé par cette charité, cette agapé divine. Mais il ne nous appartient pas de dire « je suis dans l'agapé divine ». D'une certaine manière, c'est ce que l'Église fait quand elle canonise quelqu'un, mais si quelqu'un a passé sa vie à dire « a priori, les amis, je pense que je suis dans l'agapé divine, et aidez-moi à ne pas en tomber, parce que c'est plutôt sympa, et je me sens, j'ai atteint un assez bon niveau », c'est-à-dire que le gars, il est déjà en train de se regarder, et que c'est pas ce qu'on appelle la charité divine. La charité divine, c'est justement cette simplicité du cœur qui se reçoit totalement de Dieu, dans la foi. Je crois que plus on est simple et pauvre, et plus on entre dans la charité divine. On ne se regarde pas soi-même. C'est typiquement la Vierge Marie, par excellence, à qui elle était pleine de cet agapé. Précisément parce qu'elle ne retient rien pour elle. Elle est dans l'agapé, elle est une espèce d'action de grâce, de limpidité, de lumière, et qui lui suffit. Vous voyez, elle ne s'interroge pas sur elle-même, comme on le fait beaucoup aujourd'hui. Le truc de, voilà, où en es-tu au niveau de ta vie spirituelle, en faire des sessions, des trucs de se revenir avec des instruments super sophistiqués, etc., avec plein d'accompagnateurs. Avec la Vierge Marie, c'était plus simple, quoi. Voilà, on va terminer. Une toute petite dernière question, et puis il faut qu'on y aille. Oui. Oui. Attendez, il est pétri d'écriture.
Les
synoptiques. Oui. Alors, c'est tout à fait probable. Je ne suis pas tellement d'accord avec ceux qui disent « Jean dit dans son évangile ce que les synoptiques avaient dit, donc il n'y avait pas besoin », comme si Jean avait écrit son évangile un peu en contrepoint par rapport aux synoptiques. Ça, je ne vois pas très bien la cohérence de ce truc-là. D'autant plus qu'il y a quelques textes en commun. Puis globalement, la structure, notamment avec la Passion. Mais il y a des contacts. Il y a des contacts, notamment de façon étonnante, avec saint Marc. Des détails, on ne s'y attendrait pas. C'est eux qu'on opposerait le plus. Alors c'est avec eux, par certains côtés, qu'il y a le plus de contacts. Donc, puis, vu l'âge, vu le... Voilà, puis l'échange qu'il y avait entre les communautés chrétiennes, c'est tout à fait probable, je pense.